L'ONU.
Qui c'est qui veut être la première puissance mondiale actuellement? La Chine.
Ils
sont en train de se développer avec leur armée.
Ils veulent créer un nouvel ordre mondial. Ils vont peut-être y arriver au détriment de l'Amérique et de l'Europe. C'est le point d'interrogation.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouveau numéro et pas des moindres de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions et parfois même ses institutions. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons fêter les 80 ans d'une institution chère à mon cœur. Non pas Cyril Lacarrière qui, rappelons-le à ses détracteurs et ce chirurgien du dos un peu trop zélé qui voulait le placer en soins palliatifs n'a que 50 ans, mais l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, connue dans le monde entier pour son rôle d'arène du multilatéralisme, fut aussi, on le sait moins, l'employeur de mes deux parents pendant près de 30 ans. Mon père étant même le facétieux traducteur qui avait pris à l'époque la liberté de modifier le message de paix universelle envoyé dans l'espace à l'attention d'éventuels extraterrestres en rajoutant des calembours et des contrepèteries. Oui, papa aurait beaucoup aimé Pierre Courade. Et si finalement les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous contacter, c'est peut-être donc à cause de lui. Papa qui répondait toujours quand on lui demandait d'un ton énervé « Mais que fait l'ONU ?» L'ONU, c'est le budget des pompiers de New York. Alors on fait ce qu'on peut. Je sais pas si aujourd'hui encore c'est le budget de l'ONU est comparable à celui des pompiers de New York. Mais une chose est sûre, l'ONU n'est rien en soi, elle est ce que décident d'en faire les États membres. Voilà pourquoi à l'occasion de cet anniversaire et aussi au moment où l'Assemblée Générale fait parler d'elle, on a décidé de zoomer sur l'histoire de l'ONU, son fonctionnement, son avenir aussi. Comme aurait dit mon regretté papa, espérons qu'une panne de micro ne nous brouille pas l'écoute. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Féru de contrepèterie.
À mon papa?
Ah, oui.
Ah, il adorait ça. Il adorait ça. Vous comprenez, si jamais mon humour vous dérange, vous savez d'où il vient. Voilà, malheureusement, ça vient de là. Bonjour Isabelle Lasserre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, spécialiste des questions diplomatiques. Vous avez notamment reçu le prix de la presse diplomatique en 99 pour vos reportages au Kosovo et dans le Caucase. Le mois prochain, vous sortez un nouveau livre, Le fantôme de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que la diplomatie est en danger? L'Assemblée générale de l'ONU se déroule en ce moment à New York. Lundi, Emmanuel Macron doit y reconnaître l'État de Palestine. Mais à quoi sert encore cette institution? C'est ce que vous allez nous expliquer au cours de cette émission. Juste le temps de vous présenter les membres permanents de mon conseil de sécurité à moi. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
À vos côtés, Isabelle, je l'ai sentie bouleversée par l'anecdote sur mon papa. Elle adore quand ses collègues évoquent leur enfance. La dernière fois qu'elle avait été émue comme ça, c'est quand Pierre Courade lui avait raconté sa passion pour Bernadette Soubirous. Et qui lui avait montré des photos du corps admirablement conservé de la sainte dans son petit cercueil en plexiglas. Elle ne s'était endormie qu'au bout de 40 secondes. Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un discours aujourd'hui, de grands dirigeants ont pris la parole à l'ONU. Certains ont fait polémique. Ça a été le cas d'une icône de la révolution cubaine en 1964.
Face à vous, Isabelle, lui aussi connaît bien l'ONU puisqu'il connaît bien ma mère. Quentin, chaque matin, des poltrons minés, c'est-à-dire pour vous entre 10h30 et 11h.
Monique, me laisse pas partir avant.
Donc. Quelle ordure. Vous partez, maman, je t'embrasse. Vous partez sur le terrain à la rencontre des passants et vous les interrogez sur notre thème du jour.
Déjà, est-ce que les gens savent ce que ça veut dire l'ONU? À quoi sert l'ONU? Je suis allé enregistrer les gens dans une ville entourée de montagnes, Grenoble, et heureusement que je me suis levé un peu plus tôt cette fois-ci pour être revenu.
Excusez-moi, mais j'ai découvert ça en préparant l'émission. Qu'est-ce que vous foutiez à Grenoble, Quentin?
Mais oui, c'est vrai.
Je suis allé faire un tour là-bas, prendre l'air.
Non, il y a une raison.
Il y a une raison.
À Paris.
Mais oui, vous étiez vraiment ou c'est du mytho?
Ah non, c'est vrai. Je
suis allé. Non, mais parce que bon.
Mathieu pose une bonne question. Qu'est-ce que vous faisiez à Grenoble?
C'est ma vie privée, Cyril.
Ah, très bien, on tâchera d'en savoir plus. Vers 16h30, quoi de plus désopilant qu'une organisation internationale? Eh bien, un quiz sur les organisations internationales.
Youhou.
À la découverte aujourd'hui des petites histoires dans les grandes institutions, nous verrons notamment qui avait pissé dans la tasse du représentant de la Corée du Nord au Conseil de sécurité en mars 96. Il se pourrait que ce soit moi. Mais vers 17h, nous verrons si nos thèmes de la semaine ont plu à François Rollin, notre redoutable inspecteur des travaux finis. Après 17h, on se replongera dans une année marquante de l'histoire. Zoom zoom back, direction 1965 aujourd'hui. Capri, c'était fini, et comme dirait Cyril, Malcolm X aussi. Oh. On reviendra sur la figure du mouvement afro-américain assassiné donc en 1965 avec l'écrivain Alain Mabankou. Et mon petit doigt me dit que ça va être une bonne émission.
Une belle émission.
Mais d'abord, Isabelle Lasserre, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est donc ouverte la semaine dernière. J'ai envie de dire, un peu dans l'indifférence générale, à quoi elle sert encore cette réunion?
Elle sert de forum
aux différents pays qui en font partie, et elle sert à tous ces pays à confronter leurs visions du monde qui sont de plus en plus différentes. Donc c'est effectivement un des seuls avantages de l'ONU aujourd'hui, avec bien entendu certaines de ces agences qui sont extrêmement efficaces, notamment quand elles s'occupent des réfugiés comme le HCR, et donc les agences fonctionnent encore très bien. Mais l'ONU telle qu'elle, qui a été créée en 1945 pour être comme première organisation collective et qui avait comme objectif d'être une SDN, vous savez, c'était la Société des Nations, qui est morte juste avant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle avait été incapable de l'arrêter. Alors oui, l'ONU, ça devait être une SDN avec des dents, et on pensait mettre fin au temps épouvantable de la guerre. On pensait qu'avec cette organisation des Nations Unies raisonnable, les nations allaient pouvoir résoudre leurs différends par la diplomatie plutôt que par la guerre. On voit aujourd'hui qu'on en est très très loin et que tous les principes de l'ONU sont quasi morts.
Lui, il est la mémoire du multilatéralisme, et pour cause, il a connu la SDN, la Société des Nations, dont il avait couvert l'inauguration en grande pompe le 10 janvier 1920, avec un haut de forme et une queue de pie, et qui avait fait dire aux gazettes de l'époque, je cite, « Ce Cyril de la carrière, quelle classe !» 100 ans plus tard, et 12 versets en moins, le voici, fringant comme en 40.
150 ans, Cyril, allez.
Fringant comme en 40, mais 1940, évidemment. Bien bonjour, sûr. Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Racontez-nous donc l'ONU, d'où ça sort.
Eh bien, imaginez New York, Manhattan, la United Nations Plaza, un bâtiment avec un régime particulier, celui de l'extraterritorialité. Oui. 193 drapeaux qui flottent au vent à l'intérieur. Des interprètes s'agitent dans des cabines vitrées. Des diplomates lisent des discours qu'ils n'ont pas écrits. Bienvenue à l'ONU. L'Organisation des Nations Unies est née sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Un choix des vainqueurs, les États-Unis, l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et la France, même si, bon, disons que c'est un coup de maître du général de Gaulle. Leur projet est simple, instaurer une instance où les nations discutent plutôt que s'envoyer des bombes. Ça, c'était sur le papier. Dans la vraie vie, ça va être compliqué et les discussions vont être difficiles. Le général de Gaulle, encore lui, dira le machin qu'on appelle l'ONU.
Pas très positif tout ça, Cyril.
Non, parce qu'il n'était pas très blabla, le grand Charles. Et pourtant, l'ONU devient une scène incontournable. Parfois même, la scène de la mise en scène. Fidel Castro fait un discours de plus de 4 heures contre l'impérialisme américain. En 1960, Nikita Khrouchtchev tape sa chaussure sur la table durant le discours d'un dirigeant philippin. Anecdote qui ne figure pas dans le compte-rendu du jour, mais revendiquée par Khrouchtchev lui-même dans ses mémoires. Yasser Arafat et Nelson Mandela y sont venus plaider leur cause. Et en 2006, à la tribune, le président vénézuélien Hugo Chavez compare George W. Bush au diable. Bref, un lieu pas comme les autres. Ah, et l'ONU, c'est aussi un truc de mec, puisqu'en 80 ans, elle n'a jamais, jamais été dirigée par une femme. Mmh. Alors d'où ça sort l'ONU ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril, et merci également de surligner mes relances, comme on faisait au bon vieux temps. C'est Papy Noël est perdu, si vous ne surlignez pas, forcément.
My bad.
Your bad. Isabelle Lasserre, l'ONU fête donc ses 80 ans cette année. Cyril nous rappelait qu'elle a été voulue par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que son organisation même, mais pas aujourd'hui, obsolète. C'est ce qui fait qu'elle marche peut-être moins bien.
Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'abord l'Assemblée générale de l'ONU qui, elle, reflète en temps réel
oui,
presque
ça, c'est vrai. Une voix par État.
Et puis il y a son bras armé, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est composé de 5 pays, et ces 5 pays sont tous dotés de la bombe nucléaire, et ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Et effectivement, ces 5 pays ne représentent plus l'évolution du monde. C'est-à-dire qu'il y a des grands pays qui sont devenus grands, comme par exemple le Brésil, l'Inde, qui tapent à la porte et qui disent « Nous aussi, on veut un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. »
Pourquoi on leur refuse ?
L'Allemagne aussi. Parce que on leur refuse parce que c'est pas qu'on leur refuse, c'est que c'est très très difficile de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. D'abord, ça doit se faire à l'unanimité, personne n'est d'accord. Ensuite, l'Allemagne veut un siège, mais la France ne veut pas. L'Inde veut un siège, mais la Chine ne veut pas. Donc, y compris parmi les pays candidats, il y a des batailles au sein du Sud global entre les pays candidats.
Or, on parlait d'une organisation, d'une SDN qui aurait des dents, principe de l'ONU à la base. Ce qui a des dents dans l'ONU, c'est le Conseil de sécurité et pas l'Assemblée générale.
Oui, alors, ce qu'il y a dedans, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, quand il fonctionne. Et c'est vrai qu'il a brièvement fonctionné un tout petit moment à la chute du communisme. Et depuis la guerre de Corée, on s'est aperçu qu'il ne fonctionnait pas, parce que pour qu'il fonctionne et pour qu'il puisse utiliser ses dents, il faut le consensus des cinq pays, et que les cinq pays sont jamais d'accord. Et pendant toute la guerre froide, il y avait incompatibilité des visions entre la vision soviétique et la vision américaine du monde. Donc, à part ce tout petit moment post-communisme, on est revenu aujourd'hui dans des batailles permanentes, c'est-à-dire que la Chine protège la Russie, les États-Unis protègent Israël, la Russie vote toutes les résolutions, contre les résolutions qui veulent aider l'Ukraine, etc. Et donc on a des règlements de compte en permanence, ce qui fait que le Conseil de sécurité est absolument bloqué. Et quand ces résolutions sont adoptées, et ben de toute façon, elles ne sont pas appliquées.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À quoi rime encore l'ONU ? J'espère vraiment que ma maman n'écoute pas cette émission et mes questions sacrilèges. Oui, zoom sur l'ONU aujourd'hui à l'occasion de son Assemblée Générale qui se déroule en ce moment à New York. On est toujours avec la rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, Isabelle Lasserre. Isabelle, comment ça se passe concrètement cette Assemblée Générale ? Tous les chefs d'État vont se succéder à la tribune pour prononcer un discours ?
Oui, oui, c'est vraiment l'endroit où tout le monde s'exprime. Mais avec le temps, c'est devenu en fait une enceinte où les pays émergents crient leur ras-le-bol d'un monde qu'ils considèrent être dominé par l'Occident. Et c'est une tribune qui est de plus en plus ouvertement utilisée, essentiellement par les autocrates, qui parlent plus fort que les autres et qui revendiquent en fait un changement intégral du système international et donc aussi de ces organisations internationales. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant à observer, mais voilà.
Emmanuel Macron va donc profiter de cette tribune pour officialiser la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Ça sera lundi. Une quinzaine d'autres pays devraient le suivre. Est-ce qu'on doit s'attendre à, alors pour le coup, là, le coup de projecteur va être énorme, à un moment historique ?
Non.
Isabelle.
Non, c'est une victoire diplomatique pour la France, parce que c'est une réelle initiative diplomatique, et parce que elle aurait pu y aller toute seule, et finalement d'autres pays l'ont suivie. Mais je vais vous calmer tout de suite.
Calmez-moi.
Le 23 septembre ne sera pas différent du 22 septembre, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien. Ou alors les choses risquent d'être encore pires. Pourquoi ? Je vais m'expliquer. Oui. Parce que pour que aujourd'hui la Palestine a un rôle de observateur au sein de l'ONU. Pour qu'elle soit représentée en tant qu'État, il faut que l'Assemblée Générale vote son admission en tant qu'État. Mais pour qu'elle le vote, il faut qu'il y ait une recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Donc c'est foutu.
Et il y a un veto américain. Donc il n'y aura pas davantage d'États palestiniens le 23 septembre que le 22 septembre. En revanche, ça va beaucoup énerver Netanyahou, qui va sans doute redoubler de violence à Gaza. Et ça va encourager le Hamas, qui considère que c'est une victoire.
En tout cas, l'Assemblée générale va être marquée par ce conflit à Gaza. En début de semaine, l'ONU a déclaré officiellement qu'un génocide était en cours dans la bande de Gaza. Pourquoi l'ONU n'envoie pas des casques bleus pour protéger la population ?
Alors, les casques bleus, en fait, l'ONU, elle devait avoir des dents, mais ces casques bleus, leur rôle n'est pas de jumper dans une guerre pour l'arrêter. Ce sont des soldats de maintien de la paix, les casques bleus. Donc, ils arrivent en général à un moment où les guerres sont relativement calmes pour pouvoir essayer de maintenir la paix. D'ailleurs, ils y arrivent assez rarement. Ça a marché au Timor oriental, ça n'a pas marché en Bosnie, parce qu'en fait, les casques bleus ne tiraient pas. La plupart du temps, ils n'utilisent pas. Ça doit être que la légitime défense. Donc, c'est vraiment un endroit où, d'ailleurs, comme en Ukraine, où les casques bleus ne sont pas légitimes. Enfin, il n'est pas question d'envoyer des casques bleus. Peut-être que la question se posera après, une fois que la guerre sera arrêtée, qu'il y aura un processus politique. Alors là, pour aider le pays à faire son transition, on peut l'envisager.
Mais du coup, il y a moins d'opérations de casques bleus actuellement ces dernières années ?
Il y a moins d'opérations de casques bleus.
Ils sont moins sollicités ?
Actuellement, ils sont effectivement moins sollicités. On est dans une période où on a effectivement beaucoup de guerres très intenses qui se déclarent et où on ne peut pas envoyer des casques bleus. Et c'est le cas, par exemple, de l'Ukraine. C'est absolument impossible.
La couverture de votre prochain livre qui sort dans un mois aux éditions de l'Observatoire fait un parallèle entre les accords de Munich de 1938 et la guerre actuellement en Ukraine. Est-ce qu'on est revenu en 1938, Isabelle ?
En partie, c'est-à-dire qu'on voit la tentation chez certains pays occidentaux et chez certains pays européens pour apaiser le monstre, à à l'époque c'était Hitler, aujourd'hui c'est Vladimir Poutine, de lui céder une partie du territoire qu'il concède, c'est-à-dire d'amputer un bras, comme à l'époque, en 38, à la conférence de Munich, la France et la Grande-Bretagne avaient donné les Sudètes à Hitler en pensant que ça le calmerait et qu'il n'irait pas plus loin. En fait, il a envahi la Pologne et la France et la Grande-Bretagne ont été entraînées dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a l'illusion qu'en donnant le Donbass et la Crimée à Vladimir Poutine, ça va arrêter ses ambitions. Or, l'appétit vient en mangeant, et là, Hitler, je compare pas Hitler et Poutine, parce que ça n'a rien à voir, mais dans la volonté de conquête impériale et de revanche sur l'autre, hein, de Hitler, vengeance pour la Première Guerre mondiale, et Poutine, vengeance d'avoir perdu la guerre froide, et vengeance de la décomposition de l'Union soviétique, ils ne s'arrêteront pas parce que leurs ambitions sont beaucoup plus larges que ça, et elles sont dites dans les discours en permanence. Donc, on peut les lire, et quand on lisait Mein Kampf à l'époque, on voyait bien qu'Hitler ne s'arrêterait pas aux Sudètes. Et quand on lit les discours de Vladimir Poutine aujourd'hui,
on voit
bien qu'il ne va pas s'arrêter au Donbass et à la Crimée. Donc, on voit régulièrement, ça a été très flagrant dans le cadre de l'Allemagne, notamment avec Angela Merkel, en disant, bon, c'est l'apaisement, en fait. C'est-à-dire, la politique d'apaisement...
Ça fonctionne pas avec les tirs.
Elle entraîne, en général, alors elle donne une bonne conscience, elle rassure parce qu'on pense qu'on va éviter la guerre, et en général elle entraîne une nouvelle guerre plus importante.
Youpi, j'ai envie de dire, dans Zoom Zoom Z cet après-midi. Un monde sans l'ONU.
Désolé de casser l'ambiance.
Non, mais vous êtes là pour ça, Isabelle. Vous êtes là pour ça. Un monde sans l'ONU, on peut à la rigueur l'imaginer, mais un monde sans Quentin, lui. Un monde où on pourrait se balader dans Paris sans être importuné par un type qui vous demande votre avis sur la dysmorphie financière, la transmisogynie dans le sport ou la désoccidentalisation, alors que vous n'avez même pas pris votre premier café. Ça, vraiment, ça manquerait.
À Paris ou ailleurs.
Mais on va
à
le voir.
Grenoble.
On va le voir. C'est un événement aujourd'hui, Quentin. Que pensent les Grenoblois de l'ONU? Puisque c'est à Grenoble que vous êtes rendu.
Avec cette question, à quoi sert encore l'ONU? Je viens de quitter la place Victor Hugo pour descendre la rue Félix Poulat, où serpente le tram. À chaque coin de rue, j'aperçois un bout de montagne, ce qui donne à la ville un truc assez particulier, assez plaisant. Assise sur un banc, je rencontre ces deux copines en pleine discussion.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez quel âge? Je peux vous demander votre âge?
C'est indécent.
L'âge ou la question?
Sur une vieille dame, c'est indécent.
70 passés.
Vous êtes surpris.
Et là, vous faites un trottoir?
Alors, je fais pas le trottoir.
Vous savez très bien ce que j'ai voulu dire.
Je fais un micro-trottoir.
Oui, voilà. Vous savez très bien ce que j'ai voulu dire.
Je les emmène quand même sur notre sujet du jour. C'est quoi l'ONU?
La définition est dans le nom. Unifier les nations.
Oui, bah merci Louisette. Mais justement, ces nations unifiées, ça n'était pas dans l'espoir de stopper un jour les conflits? Seulement voilà.
Depuis les Romains, on est en guerre et ça continue.
Plus ou moins, il y a eu quand même une... Nous, on est les baby-boom, les baby-boomers. On a eu une période de calme quand même, de développement.
Pour l'instant, on a évité une guerre atomique, mais la guerre en soi, elle a toujours existé.
Louisette écoute son amie et ça part en discussion géopolitique.
Qui c'est qui veut être la première puissance mondiale actuellement? La Chine?
Non, c'est les États-Unis.
Oui, mais ils sont en train de se développer avec leur armée qui est supérieure aux États-Unis.
Vous avez vu les images de cette semaine?
Ouais.
Oui.
Bien d'écouter les deux.
Oui.
Ils veulent créer un nouvel ordre mondial. Ils vont peut-être y arriver au détriment de l'Amérique et de l'Europe. C'est le point d'interrogation.
Ce jeune maintenant qui a son look de randonneur, basket, chaussettes, sac à dos de sport avec un tube en plastique pour s'hydrater. Un mec qui aime la montagne, forcément.
Salut.
C'est quoi votre prénom à vous?
Pierre-Louis.
Il y a un truc avec la montagne, les gens ici...
On s'en relie à la montagne parce qu'on est au milieu de trois belles chaînes de montagnes.
Ouais. Allez.
L'ONU, c'est l'organisation... C'est les Nations Unies? Comment est-ce qu'on appelle ça? L'organisation des Nations Unies, c'est ça?
Créée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale, je lui demande s'il voit à quoi ressemble le siège de l'ONU à New York, avec sa rangée de drapeaux.
À la base, ça s'est représenté d'une manière ou d'une autre. Le peuple qui, en quelque sorte, de manière indirecte, a envoyé des représentants là-bas. En pratique, c'est probablement principalement des hommes et des femmes en costard. C'est essentiel, mais pas que comme symbole. Je pense qu'on peut en sortir quelque chose.
Un peu d'optimisme, ça fait du bien dans ce monde-là.
C'est ça.
Comme quoi aller marcher à la montagne?
Ça ouvre l'esprit, ça donne envie de grandeur et d'optimisme.
Ce monsieur fonce acheter du pain maintenant, enfin fonce, à son rythme. Je lui dis que je parle de l'ONU avec uniquement des vrais grenoblois. C'est un vrai?
Un vrai? Je suis né à Grenoble.
Vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît?
1947. Tu es puis René Coty.
Et vous êtes né sous René Coty?
Oui. Puis René Coty jusqu'à Macron, il y en a quelques-uns.
Et vous en avez vu?
Oui.
Est-ce que l'Organisation des Nations Unies a toujours été un rempart, un garde-fou, quelque chose qui a permis de garder un dialogue avec les pays, entre les pays?
Jusqu'à Chirac, à la fin de Chirac, c'était à peu près ça. Puis après, ben, ça s'est tout dégradé. Quoi. On n'a qu'à voir les Américains comme ils se comportent maintenant.
Ça reste des alliés?
Non.
Est-ce que la figure majeure, la posture internationale s'est fissurée depuis le président Chirac? Pour ces deux infirmières, collègues, hein, Macron s'en sort pas trop mal.
Moi, je trouve qu'au niveau international, il est plutôt bon dans les rapports.
Moi, je pense que Macron, il est diplomate.
Ouais, mais trop, il y a un moment, il faut savoir trancher dans le vif et affirmer ses opinions.
Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme entouré de sa bande de potes qui a repéré le micro France Inter avec un élégant « Hey, France Inter !»
Salut, salut.
Ça va?
Très bien, et vous?
Toi, t'as vu le micro directement?
Ah oui, je connais France Inter.
T'écoutes quoi?
J'ai goûté Guillaume Meurice avant.
Ah ouais, ouais.
Il est parti. Triste époque, hein.
Bon. Du coup, c'est moi.
Et vous êtes qui?
Personne. Visiblement personne à Grenoble. Ça, c'est sûr. Dernière réaction sur notre thème du jour.
L'ONU. Hypocrisie.
Bah... Attends, pourquoi hypocrisie?
Indignation.
Ah, tu vas me répondre que sur un mot, toi, à chaque fois.
Oui.
Qu'est-ce qui vous indigne? Vous avez quel âge?
J'ai 21 ans. Non, je suis pas d'accord, mais notamment avec ce qui se passe en Palestine. Je trouve que c'est horrible ce qui se passe. L'histoire se répète trop vite. Ça fait peur quand même.
Mais l'ONU, c'est pas un rempart?
Bah, c'était censé, j'y croyais en tout cas au départ.
T'étais là en 45?
Non. Non, mais je veux dire, quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me disais que c'était stylé.
Les anciens, les randonneurs et les étudiants, une certitude reste, l'ONU fait souvent parler, mais assez rarement rêver. Entre utopie fissurée et scepticisme du moment, l'organisation semble avoir perdu de son éclat depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est peut-être ça le contraste ici, entre ce qu'on espérait noble et ce qu'on pense ici, à Grenoble.
Isabelle Lasserre, finalement, est-ce qu'on ne peut pas tout résumer à ça? L'ONU fonctionnait jusqu'à Jacques Chirac.
Oh, écoutez, on peut voir les choses comme ça. Même sous Jacques Chirac, il est parti en quelle année, Jacques Chirac?
2007.
Alors, 2007, oui.
Donc il y a eu des couacs sous Jacques Chirac
déjà.
Aussi.
Mais on a l'impression que là, il y a une forme de délitement. En tout cas, on a l'impression que l'inefficacité de l'ONU est plus flagrante que jamais, peut-être par la personnalité des chefs d'État actuels, entre Donald Trump, Poutine. Mais de fait, on a l'impression vraiment que plus personne ne croit.
Elle est plus flagrante parce que son conseil de sécurité est complètement bloqué et parce que c'est devenu l'enceinte où se règlent les comptes entre les pays du mal nommé Sud global qui entoure la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et qui veulent en fait désoccidentaliser le monde. Et donc c'est difficile de faire sortir quelque chose de concret. Il y a aussi d'autres choses, c'est que certaines agences de l'ONU marchent très très bien, et d'autres agences ou d'autres départements ont été un petit peu décrédibilisés. C'est le cas par exemple à Gaza de l'UNRWA, qui a eu quand même 10 personnes en son sein qui ont participé au massacre du 7 octobre, qui n'étaient pas neutres dans ce conflit. C'est le cas de la commission du Conseil des droits de l'homme, dans lequel on retrouve le Pakistan, dans lequel on retrouve la Chine, qui a été présidée à un moment par l'Iran. C'est le cas du secrétaire général, Antonio Guterres, qui, par exemple, au dernier rendez-vous, la dernière réunion des BRICS, présidée par Vladimir Poutine à Kazan, en Russie, est allé là-bas et a fait des courbettes à Vladimir Poutine et a fait des accolades au dictateur biélorusse Loukachenko. C'est le cas de l'Assemblée générale quand elle a fait une minute de silence quand le président iranien Raisi est mort hélicoptère. Raisi, il était surnommé le boucher de Téhéran. C'est lui qui menait une répression absolument abominable. Alors, en fait, l'ONU, pour tous ceux qui aiment la démocratie, les droits de l'homme, n'est plus prise au sérieux. Quand on voit ces représentations. Et par ailleurs, elle est efficace. Elle n'a pas réussi à empêcher la guerre en Ukraine. Elle n'a pas réussi à empêcher le génocide rwanda. Elle n'a pas réussi à empêcher les massacres à Srebrenica en Bosnie, ou même les casques bleus de l'ONU se sont retirés avant les massacres. Donc il faudrait vraiment une réforme assez forte. Moi, si on me demandait de parier, est-ce que l'ONU sera encore là dans 10 ans ? Eh ben, j'en sais rien. Ben, je ne suis pas sûre. Et maintenant, si à la question, je pose, vous avez vu, comme je suis maligne, je pose même moi-même les questions.
C'est tout confort pour moi.
Est-ce que le monde serait meilleur comme l'ONU sans l'ONU ? Là, la réponse est encore non, bien sûr.
Quand même. Ma maman écoute.
Il y a quand même une forme de déconnexion. Ce jeune homme qui raconte que lorsqu'il a découvert l'ONU en classe, il trouvait ça stylé. Aujourd'hui, à 18 ans ou 19 ans, il me parle d'hypocrisie, d'indignation. Est-ce que ça peut poser aussi un problème que la jeune génération se détache de ce genre d'institution, de symbole ?
Oui, mais en même temps, aujourd'hui, ce n'est plus à l'ONU que les choses importantes se passent. Donc, sa réaction est tout à fait normale. Et tout ça, on n'en a pas encore parlé, mais tout ça est aggravé par l'attitude des États-Unis, et particulièrement de Donald Trump. Les États-Unis n'aiment pas le multilatéralisme. Ils n'aiment pas les institutions internationales parce qu'elles le contraignent. Ils n'ont jamais voulu être dans la Cour pénale internationale, etc. Mais Donald Trump a poussé, en fait, cette logique bien plus loin. Il s'est retiré de l'accord de Paris, il s'est retiré de l'OMS, et Donald Trump, qui est un homme de deal, tape sur tout ce qui est de nature, sur toutes les institutions qui sont de nature à limiter son pouvoir, qu'il aimerait bien être autocratique. Et donc, c'est un homme de deal qui passe des deals de manière bilatérale. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que les choses se passent. Mais même la Russie, quand elle a vraiment besoin d'une grande initiative, elle ne passe plus par l'ONU. Par exemple, 2017, en Syrie, guerre civile, etc., la Russie propose des zones de déconfliction. Enfin bref, elle essaye de reprendre le pouvoir international sur la gestion de la crise syrienne. Elle le fait comment ? Elle le fait pas au sein de l'ONU. Elle le fait en organisant une conférence parallèle, ad hoc, à Manama. Donc ce n'est plus à l'ONU que les choses se passent. L'ONU est devenue un théâtre, une image qui représente les nouveaux rapports du monde. Donc c'est très intéressant à observer, mais c'est pas, concrètement, ce ne sont pas là que les décisions sont prises.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un grand moment dans Zoom Zoom Zen, puisque j'ai enfin entendu le reproche que vous formulez le plus souvent à l'encontre du quiz, non pas Quentin que c'est mal écrit, mais qu'il n'y a pas de récompense. Cette époque est terminée puisque le gagnant ou la gagnante remportera aujourd'hui l'un des plus beaux livres de 2025, une enquête passionnante, ça s'appelle L'énigme publique numéro 1 et c'est signé Daniel Zaguri. Oh. Vous allez en tomber de votre chaise, jouons au Zoom Zoom Test.
Vous l'avez ?
Évidemment, il est dans le bureau. À la découverte, non pas de l'ONU, ce serait trop facile, mais des organisations internationales les plus cheloues. Des organisations dont l'intérêt est parfois plus discutable et le but un peu moins noble que celui de l'ONU. Par exemple, connaissez-vous la Flat Earth Society ? La Société de la Terre plate. Voilà des gens qui ne prennent pas pour argent comptant ce qu'on leur raconte à l'école. Des libres penseurs qui ont appris à remettre en doute tout ce qu'on leur disait, un peu comme Pierre Courade, mais encore plus borné.
Quel enfer !
Oui Manon, c'est très dur d'avoir une discussion avec un platiste. Ce qui est beaucoup plus rigolo en revanche, c'est de suivre le compte X de la Flat Earth Society, compte devenu célèbre en 2018, à la suite d'un tweet que pour le coup on peut qualifier d'iconique. Ce tweet c'était quoi ? La Flat Earth Society a des membres tout autour du globe. Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, c'est juste un type qui m'a dit bien Photoshop. Ou la NASA a peint le ciel en bleu pour nous cacher la vérité.
B. Thomas Pesquet, moi.
Ils auraient insulté notre Thomas Pesquet national ?
Mais ils le connaissent.
Mais parce qu'il... Ouais. Bah oui.
Bah nous, on ne le connaît pas non plus, finalement, hein, puisqu'il n'est jamais venu. Bonne réponse de Manon Mariani. Ah. Oui, une association platiste qui se vante d'avoir des membres all around the globe. Voilà qui ne manque pas de sel. D'ailleurs, vous savez qu'on appelle platistes les esprits clairvoyants qui ont su déchirer le rideau du mensonge tendu par la secte pédosataniste qui dirige le monde. Mais comment appelle-t-on les demeureux qui croient encore en 2025 que la Terre est ronde ? Car les platistes ont inventé un mot pour désigner ces malheureux abrutis qui croient qu'on vit sur une boule sans tomber. Ce qui n'a aucun sens. Ce sont les globistes, les sphéristes ou les boulistes.
B.
C'est les boulistes.
Les boulistes.
Mais non, c'est la pétanque. C'est parce que
vous avez tellement envie d'aller à Marseille. On va bientôt à Marseille le 10. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous voir le 10 octobre.
Ah, on fait une pétanque.
Mais donc là, en fait, vous n'avez pas répondu. C'est pas la bonne réponse, néanmoins.
Oui,
donc,
je me doute, Mathieu.
C'était la réponse. Ah, les globistes. Les globistes. D'ailleurs, ne dit-on pas chez les platistes, on est tous le globiste de quelqu'un. Si, on le dit. Restons sérieux, partons pour Singapour. Manon Quentin, vous qui êtes des citoyens du monde, doublés de fins mélomanes, vous aurez sûrement reconnu cette musique traditionnelle singapourienne, référencée sous le nom de musique chinoise triste dans la base musicale de Radio France.
Que vous mettez tous les jours.
Oui, bah, il n'y en a qu'une. Alors, Singapour, donc, où en 2001 fut fondée la WTO, qui non seulement est présente dans 51 pays, mais a même lancé, sous l'égide de l'ONU, une journée mondiale. Laquelle ? la journée mondiale de la trompette, car il s'agit de la World Trumpet Organization. La journée mondiale des toilettes, car il s'agit de la World Toilet Organization. Ou la journée mondiale de la torréfaction, car il s'agit de la World Torréfaction Organization.
Il n'avait pas fini B.
Vous avez parlé. J'ai fini.
Vous arrêtez à moitié entre vos mots.
Je ne m'arrête pas à moitié entre mes mots. Je parle déjà suffisamment vite comme ça.
J'ai dit B, j'ai attendu.
C'est une bonne réponse de Manon, qui a pris le temps d'écouter son producteur. Et ça, ça fera une différence dans sa carrière, vous verrez. Réponse à oui, la journée mondiale des toilettes que ne manque jamais Quentin, quitte, souvenez-vous, à mettre en péril l'antenne.
C'est l'heure de retrouver toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Salut à tous.
Toute l'équipe ou presque, puisque Quentin est au cabinet. La WTO est une organisation mondiale à but non lucratif.
On a un problème de chasse d'eau.
Pourquoi c'est une belle chasse d'eau?
Elle dure longtemps.
Oui, elle est très longue.
Elle se rend
gros bouton, gros bouton. La WTO est une organisation mondiale à but non lucratif sous l'égide de l'ONU, dont l'objectif est d'améliorer les conditions d'accès aux toilettes et d'assainissement dans le monde entier. C'est donc très sérieux. D'ailleurs, à part mon père, tout a toujours été très sérieux à l'ONU. D'aucuns diraient trop. Heureusement, il y a quand même eu quelques moments un peu fun, notamment un discours qui a sidéré l'Assemblée générale le 27 octobre 2021. D'après vous, ce jour-là, qui s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à la stupeur des diplomates présents? Un perroquet? Un dinosaure? Ou Pierre Courade?
Ah bah, A et B, c'est la même chose, hein.
C'est-à-dire A et B, c'est la même chose. Non.
Perroquet et Pierre Courade.
Non, c'est C.
Non, c'était C. Et ben, de toute façon, c'était la réponse B. Donc, c'est raté de toute façon. Peu coutumière. Alors là, je crois que c'est un bruit de T-Rex qu'on a quitté dans les archives de l'IA. C'est un vrai T-Rex.
Ça va pas,
peu coutumier, peu coutumier des canulars. Les diplomates ont eu la surprise ce jour-là de voir débouler au pupitre Frankie, un beau T-Rex. Donc, en réalité, un type qui devait beaucoup transpirer dans un déguisement de tyrannosaure. Frankie, qui était venu livrer un discours féroce contre les énergies fossiles, invitant les pays à en réduire les financements. Causer sa propre extinction en 70 millions d'années, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue, avait lâché la bête à l'issue de ce happening, qui avait bien marché, puisque depuis, comme chacun sait, tous les pays ont renoncé aux énergies fossiles. Mmh. Enfin, attention,
tout le monde s'en rappelle surtout.
L'ONU, c'est pas que des diplomates en berlouti qui peuvent passer une carrière à évoluer uniquement sur moquette. C'est aussi des hommes et des femmes qui se battent pour maintenir la paix sur le terrain. Ces Avengers, qui n'ont jamais fait rêver un seul enfant, ce sont les casques bleus. Déployés pour la première fois en 1956 lors de la crise du canal de Suez, les casques bleus ont bien failli être des casques rouges, des casques verts ou des bobs orange?
Non, A, casque.
B, casque rouge. Vert, mais c'est... En fait, ils avaient choisi vert, mais c'est camouflage, quoi, on les voit pas, du coup. Ah,
pas bête. Et le rouge, là, on les voyait bien. Bonne réponse de Manon Mariette. La première couleur envisagée par les casques des soldats de l'ONU était le rouge, parce que le rouge, ça se voit bien, en tout cas mieux que le bleu, c'est vrai. Seulement voilà, ça risquait de prêter à confusion avec les casques de la vermine communiste. Pas question qu'on puisse prendre un soldat de l'ONU pour un coco, donc ils sont partis sur le bleu. Et vraiment à l'arrache, puisque les premiers casques étaient en fait des doublures en plastique de casques américains repeints à la bombe en urgence. Victoire de Manon Mariani.
Oui,
et c'est pas étonnant sur les institutions internationales.
C'est vrai.
Ça ne m'étonne pas, Manon.
Venu, mais évidemment,
je bosse quand même
évidemment.
Ce sujet depuis longtemps.
Ouais, on sait. C'est passionné.
Il a quasiment le même âge que Cyril, mais aucun problème de dos. L'ONU fête ses 80 ans cette année. On zoome cet après-midi sur l'Organisation des Nations Unies avec une fine connaisseuse des questions diplomatiques, la rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro, Isabelle Lasserre. Isabelle, un mot peut-être de ce secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres. Il est en fonction depuis plus de 8 ans. Il fait du bon boulot d'après vous, parce qu'il est assez inaudible, en tout cas dans les grandes crises majeures.
Oui, il est assez inaudible. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on peut lui reprocher quelques couacs, notamment de s'être rendu à plusieurs reprises dans des pays qui sont des dictatures à faire des courbettes auprès de Vladimir Poutine. Donc, certains lui reprochent d'être un secrétaire général plus politique que les autres. En même temps, à sa décharge, il est bien obligé d'aller dans les grandes réunions organisées par le Sud Global, puisqu'il est secrétaire général des Nations Unies. Alors après, tout l'équilibre est difficile à tenir. On peut y aller, mais pas forcément taper dans le dos, donner des accolades aux dictateurs.
Alors là, pardon, ma mère vraiment m'engueulait, mais tous les combien on change de secrétaire général de l'ONU? Vous savez pas non plus?
Non, je sais pas.
Mais tout à coup, j'ai un blanc, moi aussi. Parce que ça fait 8 ans qu'il est là. À un moment, si...
Bah, il va bientôt changer.
Il va bientôt dégager, certainement. On peut être très précis sur France Inter cet après-midi, on peut vous le dire. Bientôt, il y aura un nouveau secrétaire général de l'ONU. C'est ça, l'information. Vous dites, Isabelle, que l'ONU n'a jamais réussi à être le directoire du monde capable d'arrêter les guerres et de diminuer les inégalités, car elle n'est que ce que les États en font, ce que je disais en introduction, et les États défendent avant tout leurs propres intérêts. C'est ça la limite intrinsèque de l'ONU, et que les gens ont du mal à comprendre quand on nous dit « mais l'ONU ne fait rien ». Mais l'ONU, c'est juste les États qui se retrouvent ensemble et qui discutent.
Les États défendent leurs intérêts nationaux et les intérêts nationaux des États sont en opposition. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi ça a été très vrai après la chute du communisme, on avait vraiment, ça c'était très présent dans le monde occidental et notamment en Europe, on avait l'illusion que cette fois, enfin, la paix était arrivée, elle s'était répandue, enfin, elle était très solidement ancrée sur le continent européen et elle allait forcément maintenant se répandre partout. L'avenir était à la résolution des conflits de manière diplomatique, on pensait qu'on n'avait plus besoin d'armée. Et y a eu cette illusion occidentale qu'on pouvait chasser la guerre de notre continent, mais aussi peu après des autres. Regardez, c'était d'ailleurs pas très loin de la volonté, enfin de la théorie des nouveaux conservateurs, des néoconservateurs américains, quand ils déclarent la guerre à l'Irak en 2003. Qu'est-ce que c'est leur réflexion à l'époque? C'est de dire, on fait tomber un méchant, un vraiment méchant, Saddam Hussein. On met des gentils à la place qui vont monter tout seuls et la démocratie va se répandre comme une traînée de poudre dans tout le Moyen-Orient. Bon, il s'est passé exactement le contraire. Pas seulement parce que les États-Unis ont mal géré la presse Saddam Hussein, qu'ils ont fait n'importe quoi, mais aussi parce que, en fait, c'est une illusion occidentale de croire que tout le monde, tous les peuples du monde veulent la démocratie. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a une partie du monde qui préfère la sécurité à la démocratie et il y a tout un tas de dictateurs et d'autocrates qui dépensent une énergie faramineuse, comme Vladimir Poutine, à surtout repousser la démocratie le plus loin possible pour ne pas perdre le pouvoir. Donc, et ça, c'est vraiment une tendance qui monte et qui monte, qui monte en ce moment. Et donc, elle étouffe les espoirs de l'ONU aussi.
Le secrétaire général de l'ONU, c'est 5 ans renouvelable. Voilà, j'ai regardé.
Donc, on peut le dire aujourd'hui, on peut l'annoncer. C'est dans ce coup, dans 2 ans, il change.
Exactement. Est-ce que la voix de la France compte encore aujourd'hui à l'ONU?
Alors, elle compte beaucoup moins qu'avant, mais là, elle va compter au mois de septembre. Et c'est vrai que la France avait été exclue du jeu onusien, qui était un peu accaparé par les États-Unis, la Russie et la Chine, même de manière négative. Donc là, elle va reprendre un petit peu l'ascendant. La France a une voix qui compte de toute façon, puisque la France est un pays doté. Elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le fait d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des États-Unis, ça donne une vision globale du monde que finalement très peu de pays ont dans le monde et que la France a, donc elle rayonne quand même et elle a son mot à dire surtout, et ça donne aussi des devoirs. Alors aujourd'hui, elle l'utilise beaucoup, la France, en organisant des grandes conférences internationales. Donc c'est vrai qu'elle est très présente là-dessus. Dès qu'il y a un problème, on organise une grande conférence internationale. Mais ça aussi, on est arrivé jusqu'au bout, parce qu'on se rend compte à la fin qu'on organise des grandes conférences internationales, mais qu'en fait, derrière, on n'a pas les moyens d'appliquer en fait ce qu'il en sort. C'est pareil avec l'Ukraine. La France est sans doute le pays qui soutient le plus fortement l'Ukraine, mais on n'a pas les moyens financiers de faire autant qu'on promet.
Vous écoutez France Inter et par les temps qui courent, c'est une sage décision. Elle est de loin la plus diplomate d'entre nous, comme l'ont découvert à leurs dépens ceux qui, au cocktail qui a suivi la conf de rentrée de Radio France, se sont risqués à un « C'est toi la Marianoche ?»
Elle t'emmerde, la Marianoche.
Vous avez vraiment raté une carrière à l'ONU, Manon.
J'avais oublié Manon. Sonore, oui, oh là là. C'est vraiment... C'était la Will of Green, voilà. Bon, voilà.
Vous aviez si peu bu. La pièce jointe de Manon Mariani.
Un discours aujourd'hui.
Señor Presidente, señores delegados.
On a l'habitude de voir son visage sur des t-shirts, mais moins d'entendre sa voix. Celui que vous entendez s'appelle Ernesto Guevara, dit le Che. On est le 11 décembre 1964 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. En uniforme militaire, cigare à la main, le guérillero argentin devenu ministre de l'Industrie de Cuba monte à la tribune pour livrer un plaidoyer révolutionnaire qui va rester dans les annales. Son rôle, porter la voix de Cuba 4 ans après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir et en pleine guerre froide. Mais pas seulement, Guevara s'adresse aussi au nom des peuples du tiers-monde. Il dénonce l'impérialisme américain, accuse Washington d'agression économique et militaire contre son pays. On est seulement 3 ans après ce qu'on appelle le débarquement de la baie des cochons, cette tentative d'invasion de Cuba par des exilés cubains soutenus par les États-Unis.
Et dans ce discours, il s'en prend donc ouvertement aux États-Unis.
Oui, et sans broncher. Il dit que les États-Unis pratiquent le colonialisme le plus brutal de l'histoire moderne. Il fustige l'apartheid en Afrique du Sud, défend les mouvements de libération sur le continent africain et soutient ouvertement les luttes révolutionnaires de l'Algérie au Vietnam. Nous ne pouvons nier notre sympathie envers les peuples qui luttent pour leur libération. Le Che remet en cause l'ONU elle-même, accusée de faiblesse face aux puissances coloniales et impérialistes. C'est la première fois que la révolution cubaine s'exprime ainsi au cœur des Nations Unies. Résultat, une ovation des pays non alignés et des mouvements anti-coloniaux, mais aussi une crispation avec Washington, forcément. Pour beaucoup d'observateurs, c'est le moment où Che Guevara est passé du statut de ministre cubain à celui d'icône mondiale de la révolution.
Merci Manon, la Marianoche, comme on dit à Cuba.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un événement dans Zoom Zoom Zen. Jamais dans l'histoire de l'audiovisuel, autant de moyens n'avaient été déployés pour une chronique de seulement une minute. Normalement, cette chronique aurait tout simplement dû sauter. Mais voilà, Pierre Courade a insisté. Il ne pouvait pas être physiquement en studio avec nous aujourd'hui, mais il tenait à être en duplex, comme les grands reporters. Voilà pourquoi on retrouve donc Pierre en ligne depuis les studios d'ici Occitanie à Toulouse, d'où vous nous avez écouté attentivement. Pierre, à vous de nous résumer maintenant tout ce qu'on s'est dit sur l'ONU en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a parlé de la plus grande réunion de copropriété du monde, l'Assemblée Générale des Nations Unies. Plus généralement, on s'est demandé à quoi servait encore l'ONU. Avec nous cet après-midi, la spécialiste des relations internationales au Figaro, Isabelle Lasserre, même si ses agences fonctionnent plutôt bien, comme celle qui s'occupe des réfugiés ou évidemment l'UNESCO. Pour notre invité, l'ONU et son Assemblée Générale ont surtout l'avantage de permettre aux pays de confronter leur vision du monde. Mais d'après Isabelle Lasserre, ce n'est plus à l'ONU que les choses se décident. C'est son organisation même qui est aujourd'hui en grande partie critiquée. Elle date de la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis 80 ans, le monde a quelque peu changé. Ainsi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne représentent plus l'évolution du monde. Notre invité note que ni l'Allemagne, ni l'Inde, ni le Brésil n'en font partie. Plus grave encore, des pays fondateurs comme les États-Unis ou la Russie commencent à lui tourner le dos et ébranlent ses fondations multilatérales. Pour Isabelle Lasserre, tous les principes des Nations Unies sont aujourd'hui quasiment morts. Ainsi, l'ONU, qui était voulue comme une société des nations avec des dents, risque de vivre le même sort que sa grande sœur, s'effondrer sous sa propre inertie.
Un truc qui ne risque jamais de vous arriver, Pierre, vous qui êtes si dynamique. Merci beaucoup. Et que les auditeurs qui se posent la question, oui, ce duplex a été financé avec vos impôts.
Bon voyage, Pierre.
Oui. Bon week-end, Pierre.
Bon week-end.
À tous. Merci à tous.
À présent, vous le savez, les amis, chaque vendredi, tel un contre-maître borné, il vient dresser le bilan hebdomadaire de Zoom Zoom Zen, une émission que, visiblement, s'il n'était pas payé pour en dire du mal, il n'écouterait pas beaucoup. C'est François Rollin.
Oui, oui. En effet, Mathieu, en effet. Écoutez, jusqu'ici, vos sujets de Zoom Zoom Zen se caractérisaient par leur caractère médiocre et inintéressant. On se disait que vous ne pouviez pas faire pire. Et pourtant si, vous avez fait pire, puisque cette semaine, à la médiocrité, vous avez réussi à ajouter l'hypocrisie et la malhonnêteté intellectuelle. Lundi, vous célébrâtes Tanaland, ce pays imaginaire réservé aux femmes et où le sexisme est proscrit. Or, nous avons passé ensemble les 2 mois d'été dans votre splendide résidence de Bonifacio, en Corse. Oui, vous pourrez toujours démentir, les auditeurs savent très bien à qui faire confiance. Et j'ai noté discrètement sur un petit carnet quelques-uns de vos propos les plus tonitruants. Le 8 juillet, vous avez hurlé « La place des bonnes femmes, c'est à la cuisine, point final ». Le 14 juillet, en arrivant à la piscine avec un drapeau français planté dans votre slip de bain et un pack de bière dans les bras, vous avez crié « On est quand même mieux entre hommes, pas vrai les mecs ?» Et le 15 août, oh oui, maintenant vous pouvez être dégoûté, il y a de quoi. Et le 15 août, en regardant le Grand Prix de Silverstone, vous avez proféré ceci « Il n'y a pas de femmes en Formule 1, c'est bien la preuve de quelque chose. » Cherchez l'erreur. Mardi, vous chroniquâtes IA 2027, ce rapport qui dit que l'intelligence artificielle nous aura dépassé d'ici 2 ans. Or, vous savez pertinemment qu'en ce qui vous concerne, l'IA vous avez déjà dépassé lors de ses premiers balbutiements en 1952, soit 30 ans avant votre naissance. Un 13 novembre, si j'ai bonne mémoire. Mercredi, vous glosades et pouffades sur les derniers secrets de la famille royale d'Angleterre. Au témoin d'un doute, ce sont bien les mêmes qui vous envoient chaque semaine à la maison de la radio deux caisses de sherry et trois bonnes bonbonnes de bon bourbon.
Tout à fait.
Jeudi, pardon, je ne vous ai pas écouté. J'étais rentré du Macumba à 11h du matin. J'avais bu 5 litres d'eau gazeuse. J'avais besoin de repos. C'est un crime. Aujourd'hui, vendredi, vous dissertades sur l'ONU alors qu'avant-hier, vous en ignoriez encore l'existence. De quoi fallait-il donc parler ? Réponse, comme d'habitude et sans surprise, du sujet qui passionne le plus les Français, à savoir la dernière ligne droite de Jimmy Gressier dans la finale du 10 000 mètres des championnats du monde à Tokyo dimanche dernier. Jimmy Gressier, qui n'était que cinquième à l'entrée de la dernière ligne droite et qui l'emporta pourtant en 28 minutes, 55 secondes, 77 centièmes. Avec quatre questions qui prennent aux tripes. Petit 1. Que ressentit Jimmy Gressier quand il dépassa l'Américain Nico Young, passant ainsi de la cinquième à la quatrième place? Car contrairement à ce que vous pensez, Mathieu, quand on dépasse le quatrième, on ne devient pas troisième, mais quatrième. Petit 2. Que ressentit notre héros quand il dépassa l'Éthiopien Ismaël Kipkurui, passant donc de la quatrième à la troisième place? Petit 3. Que ressentit l'athlète boulonnais quand il dépassa le Suédois Andreas Almgren, passant maintenant de la troisième à la deuxième place? Petit 4. Enfin, que ressentit le champion français quand il dépassa l'Éthiopien Yomif Kejelcha, s'octroyant de ce fait la victoire, ce qu'on peut appeler jouer à Kejelcha? Ceci étant dit, pour apporter une note d'humour dans un sujet un peu aride. Voilà, ben inutile d'aller chercher des sujets au fin fond des bibliothèques universitaires, il suffit d'être à l'écoute de la rue et le succès vous ouvre les bras. Tâchez de vous en souvenir.
J'essaierai, François. Bien. Merci François Rollin. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Isabelle Lasserre de nous avoir permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'ONU. Je rappelle votre nouveau livre qui sort le mois prochain, Le Fantôme de Munich, l'Europe face aux défis du monde contemporain, aux éditions de l'Observatoire. Rien que dans le titre, on sent qu'il y a
beaucoup de choses à dire. Les fantômes de Munich.
Les fantômes et non pas le fantôme.
C'était pris.
Eh oui. Ah,
le fantôme
de l'Opéra. Aïe, 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 le fantôme de l'Opéra.
C'est culture, différent,
quelle
Quentin.
Quelle culture, Quentin.
Bah, en tout cas, c'est le seul que je connais au singulier.
Merci d'avoir été avec nous, Isabelle,
merci
cet après-midi.
Zoom, zoom, zen.